Il est 6h.
Il y a eu quelques effets positifs. Les enseignants ont pu davantage s'occuper notamment des élèves les plus fragiles lorsqu'ils étaient présents.
Alors que les cours sont terminés pour certains collégiens et lycéens, on va faire le bilan des demi-jauges en classe. Et finalement, la mesure n'a pas été si terrible que ça. Dans ce journal, où est passé le conseil scientifique? Ses membres omniprésents dans la gestion de la crise sont devenus quasi invisibles. Le travail des enfants repart à la hausse, c'est une première depuis 20 ans. Et puis enfin, le coup d'envoi de l'Euro 2020 de football ce soir, avec un an de retard.
Et on y revient après ce journal, dans le journal des sports de Lénaïc Monnier, et puis avec mon invité inattendu, auteur, compositeur, interprète de l'hymne des Bleus en 1978, pris de passion pour l'équipe du sélectionneur Michel Hidalgo à l'époque. On verra que le succès du morceau dans les charts est parfois à l'image de celui de l'équipe sur le terrain, c'est-à-dire pas folichon. Rendez-vous dans 20 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est encore une drôle d'année scolaire qui s'achève pour les lycéens et certains collégiens qui ont connu les demi-jauges. Ce système qui avait suscité beaucoup d'inquiétudes chez les syndicats et les parents, mais l'expérience n'a peut-être pas été si dramatique que ça. Virginie Riva a sondé les élèves et le personnel.
Des cours à distance, un jour sur deux ou bien par demi-journée, un casse-tête toute l'année pour les profs pour construire leurs cours, mais aussi pour les proviseurs, pour les emplois du temps. Côté élève, ça n'a pas été simple non plus de ne pas croiser tous ses amis, mais pour Rosalie, élève en seconde à Paris, ça a eu du bon.
En maths surtout, le fait que ce soit calme, on a pu voir plus de choses qu'on n'avait pas vues en troisième. La prof, comme on était moins, elle pouvait venir nous aider plus facilement personnellement.
Même chose pour Alexia en terminale, la demi-jauge, ça l'a beaucoup aidé pour les cours de langue.
L'espagnol par exemple, parce qu'on échangeait beaucoup avec la prof déjà en classe entière. Mais alors en plus en demi-groupe c'était encore mieux, enfin, on pouvait vraiment parler et avoir un vrai dialogue.
Mieux accompagner certaines catégories d'élèves ont pu en tirer des avantages, reconnaît même Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN.
Les enseignants ont pu davantage s'occuper notamment des élèves les plus fragiles lorsqu'ils étaient présents. On a aussi des élèves qui étaient en partie en phobie scolaire, hein, qui ont aussi apprécié cette alternance entre présence et distance. Et donc, il y a eu quelques effets positifs.
Reste le côté négatif. Beaucoup de profs n'ont pu terminer leur programme à temps.
Et pendant ce temps, l'épidémie de Covid continue de reculer dans le pays. Moins de 6000 nouveaux cas quotidiens et désormais moins de 2300 patients en réanimation.
Et dans cette période, que devient le conseil scientifique? Victor Delande, c'est une information que vous nous révélez ce matin. Le conseil se réunit en séminaire aujourd'hui et demain pour discuter de la suite.
Oui, il ne s'était pas retrouvé physiquement depuis octobre dernier. Entre-temps, 8 mois d'échanges en visioconférence, 3 fois par semaine. Ils vont se réunir en séminaire aujourd'hui et demain avec un enjeu de taille, plancher sur l'avenir du Conseil scientifique qui doit s'éteindre le 30 septembre. C'est ce que prévoit la loi de crise sanitaire. Alors c'est vrai que ces dernières semaines, ces avis sont moins médiatisés et moins mis en avant par les politiques. Ces mêmes politiques qui reprochent au Conseil scientifique des projections parfois trop alarmistes. La question de la pérennité de cette instance se pose donc. Cet été, nous allons nous mettre un peu en veilleuse, nous confie le président du Conseil, Jean-François Delfraissy. Quant à la suite, après fin septembre, c'est le politique qui décidera, poursuit-il. Il faudra regarder l'évolution de l'épidémie et des variants à la rentrée. Mais Jean-François Delfraissy n'exclut pas de passer le relais. « Je ne veux pas entrer dans la période de campagne présidentielle », assure-t-il. D'autres membres, eux, veulent poursuivre leur mission. Reste à voir sous quelle forme. Ce sera justement l'un des enjeux de ce séminaire qui débute aujourd'hui.
Les informations de Victor Delande. L'auteur de la gifle à Emmanuel Macron dans la Drôme vient de passer sa première nuit en prison. Damien Tarel a été condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes. Il écope aussi d'une obligation de travail ou de formation et d'une interdiction de port d'armes pendant 5 ans.
Ce constat alarmant de l'ONU à la une également ce matin. Pour la première fois depuis 20 ans, le travail des enfants est en hausse dans le monde.
Près de 9 millions d'enfants supplémentaires en 4 ans, alerte l'Organisation des Nations Unies avec l'Organisation Internationale du Travail et l'UNICEF. Un enfant sur 10 est déjà concerné. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ces chiffres s'arrêtent à début 2020 et ne prennent donc pas en compte la pandémie de Covid. D'ici la fin de l'année prochaine, les conséquences pourraient être bien pires. Laura Taouchanoff.
Ils sont de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus jeunes. Plus de la moitié a entre 5 et 11 ans. Ils travaillent majoritairement dans les champs, des tâches épuisantes, parfois dangereuses, avec des dégâts considérables, alerte Philippe Lévesque, le directeur de l'association Care France.
J'ai vu ces enfants qui ont 4 ans, qui doivent se lever à 4 heures du matin pour aller arroser des champs d'oignons au Mali, par exemple, avant d'aller à l'école. On ne peut pas apprendre dans ces conditions depuis 2020 et aujourd'hui. la pandémie de Covid va augmenter, augmente déjà ce phénomène.
La fermeture des écoles, la précarisation des parents. Avec la crise sanitaire, il pourrait y avoir jusqu'à 46 millions d'enfants au travail en plus d'ici fin 2022. Dans des régions pourtant en bonne voie, comme l'Asie ou l'Amérique latine, Anne Avril est directrice générale adjointe UNICEF France.
J'ai eu l'occasion d'aller au Brésil dans les années 2000 et de voir des familles à qui on distribuait des allocations pour compenser le manque à gagner d'un enfant qui ne travaillait plus. L'énorme difficulté, c'est que les dettes qu'ont accumulées les États font qu'il va y avoir probablement beaucoup d'amortisseurs sociaux qui vont disparaître ou qui vont diminuer.
Autre inquiétude avec la crise, que les salaires des parents chutent et les obligent à faire travailler leurs enfants pour survivre.
Orange publiera tout à l'heure les résultats de son enquête interne une semaine après la panne géante des numéros d'urgence, panne qui a affecté tout le pays et au cours de laquelle 5 personnes sont mortes, faute d'avoir pu être prises en charge à temps. Orange cherche à identifier les causes exactes de cet incident.
Europe 1. 6h06 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le début de l'Euro de football ce soir avec un an de retard. Quelles conséquences économiques pour le secteur du sport? On en parle juste après la pub. A tout de suite.
Europe Matin, le 5-7, Théo Manval.
6h08, la suite du journal Sophie Echen.
Italie, Turquie à l'affiche ce soir pour le coup d'envoi de l'Euro 2020. En 2021, la compétition se joue avec un an de décalage, pandémie oblige. Et si les matchs ont été reportés, les sponsors, les campagnes de pub, tout cela aussi a été reporté. Une situation inédite, Aurélien Fleureau, avec quel impact économique?
Alors l'incertitude liée à la situation sanitaire a retardé beaucoup d'investissements. Des campagnes calées d'habitude de longs mois à l'avance n'ont été décidées que ces dernières semaines. Mais tous les sponsors sont restés. Et comme toujours, l'impact économique va se mesurer grâce aux dépenses de consommation. Les bars espèrent attirer un maximum de monde. Et puis, il y a bien sûr les produits dérivés. Selon une étude ING, un Français sur cinq a prévu de dépenser en moyenne 99 euros en maillot, casquette ou décoration. Un engouement pour le maillot des champions du monde, c'est ce qu'anticipe Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, qui représente les commerces et les marques du secteur.
Je vous rappelle quand même qu'en 2018, il y a eu cette frustration de beaucoup de supporters qui n'avaient pas trouvé ce fameux maillot 2 étoiles à l'époque. Et puis quelques personnalités fortes sur des maillots qui se vendent bien, évidemment Mbappé, Griezmann, mais aussi Benzema. On pense que cette année, ça va être encore plus fort que d'habitude.
Et preuve qu'un euro de foot, cela reste très prisé. Un annonceur qui voudra être présent avec un spot pendant la mi-temps d'une éventuelle demi-finale avec les Bleus sur TF1 devra débourser 20% de plus qu'en 2016.
Aurélien Fleureau du service éco d'Europe 1 et on reviendra sur le début de l'Euro avec mon invité à 6h40, Alain Giresse, qui fut parmi les premiers Bleus à remporter le championnat d'Europe en 84 avec Platini et consorts. Interview à suivre dans une demi-heure.
Et puis Netflix se lance dans la vente de produits dérivés et lance sa première boutique en ligne avec des vêtements à l'effigie des séries les plus populaires de la plateforme de streaming. Et d'ailleurs, vous l'attendiez peut-être, 5 mois après l'immense succès de la première partie, Lupin, le gentleman cambrioleur, revient aujourd'hui pour une deuxième saison, disponible à 9h01 précisément.
Merci, c'était le journal de Sophie Echen, il est 6h10. Le journal des sports de Lénaïque Monnier. Et ça y est Lénaïque, l'Euro de football, c'est parti.
Oui, on le disait, la fête a un an de retard, mais on y est. Un mois de compétition à suivre sur Europe 1, radiodiffuseur de l'événement, dans 11 pays différents. Et des Bleus, champions du monde en titre, évidemment très attendus, très tendus peut-être aussi. La presse a évoqué hier des tensions au sein du groupe entre Mbappé et Giroud. Qu'en pense Paul Pogba?
Des tensions? Non, les seules tensions, c'est au dos, en jambes. Donc il y a les kinés. Ils sont là pour bien nous masser, mais moi qui suis dans le inside à l'intérieur, non, il n'y a rien. Il y a toujours eu une très bonne ambiance, je pense, je suppose, entre Olivier et Kiki. Non, il n'y a rien du tout. En tout cas, devant moi, il n'y a rien.
Paul Pogba qui dégoupille quand même au micro Europe 1 de Cyril de la Morinerie. Le groupe vit bien, c'est comme ça qu'on dit.
Exactement.
Les Bleus qui vont quitter Clairefontaine lundi, direction Munich, puisque le lendemain, ils se jetteront dans le bain face à l'Allemagne. En attendant, ce soir, le match d'ouverture se joue entre la Turquie et l'Italie à 21h à Rome et c'est à suivre sur notre antenne.
Et on espère qu'en tennis, à cette heure-là, le match entre Nadal et Djokovic sera terminé.
Eh bien oui, parce que c'est la demi-finale très attendue de Roland-Garros, pas avant 17h, la 58e confrontation entre les deux joueurs. Et pour notre consultant Cédric Pioline, c'est pratiquement écrit pour Nadal.
Oui, il est ultra favori ici à Roland-Garros. Rafa, lorsqu'il arrive en demi-finale, est invaincu. Il est en statistique hyper favorable contre Djokovic sur terre battue. Djokovic, en tout cas sur ce qu'il a montré sur les deux derniers tours, ne joue pas assez bien pour aller challenger Nadal, qui clairement, lui, dès qu'il arrive en deuxième semaine, il enclenche la vitesse, et puis il sent que c'est une espèce de ligne droite où vraiment il essaie d'accélérer et d'étouffer ses adversaires.
Le rouleau compresseur Nadal face à Djokovic, c'est tout à l'heure. Cédric Pioline, notre consultant, était avec Corinne Boulouk. Vous retrouvez à 8h avec le journal de Roland-Garros pour revenir notamment sur les 4 juniors français qui sont dans le dernier carré des mini-mousquetaires français.
La relève tant espérée. Merci, c'était le journal des sports de Lénaïque Monnier.
Europe 1.
Et l'Euro de football démarre donc aujourd'hui. On sera tous derrière les Bleus jusqu'au 11 juillet, on l'espère, à chanter pour les encourager. L'hymne de l'équipe de France cette année, vous le savez, a beaucoup fait parler. Mais comment on en arrive à réussir l'exercice quand on est artiste à succès? On pose la question à notre invité inattendu ce matin. Bonjour.
Bonjour Théo. C'est Monty.
Bienvenue sur Europe 1, Monty, bienvenue chez vous. Vous qui avez fait les belles heures de cette maison et de Salut les copains, notamment dans les années 60. Les Stéphanois, comme moi, et tous les Français d'ailleurs, vous connaissent pour les tubes des supporters des Verts, qui c'est les plus forts. Mais vous avez aussi écrit, et on le sait moins, l'hymne de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 78. On s'y replonge avec vous dans quelques secondes. À tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
Et c'est une voix d'Europe 1, une voix de la chanson, une voix du foot qui est avec nous ce matin, Jacques Monty. Je le disais, tout le monde a entonné au moins une fois votre tube qui a poussé les Verts de Saint-Etienne dans les années 70. Mais vous avez donc aussi écrit et chanté l'hymne des Bleus, on va dire, pour le Mondial 78.
Exact.
Allez les Bleus en 78, c'est un exercice particulier, une commande qu'on vous fait à ce moment-là, Monty, comment ça s'est passé?
J'étais stéphanois dans le cœur à tous les niveaux et Michel Hidalgo, qui était un ami, m'a convoqué avec l'équipe de France.
Puisqu'il était sélectionneur des Bleus.
Et il me dit, écoute, tu m'écris une chanson et on la sort pour la Coupe du Monde. Je dis oui, mais enfin tu sais... Tu ne fais pas aller les Verts tous les matins. J'en avais vendu 4 millions et il pensait peut-être faire un gros succès, mais ça n'a pas été un énorme succès. Enfin, toutes les chansons pour l'équipe de France, Dalida, Foucault, tout ça, personne n'a vraiment marché, même,
voilà,
même
c'est, Johnny. C'est plutôt symbolique, même Johnny, ce n'était pas effectivement fulgurant. Une fois enregistré en 78, vous êtes quand même allé le faire écouter, ce morceau, aux joueurs. C'est l'époque des Platini, des Rocheteau, des Bernard Lacombe. Comment est-ce qu'ils l'ont reçu?
J'avais quand même 4 joueurs dans l'équipe. J'avais Christian Lopez,
Jean Vion,
Battenay. Platini n'était pas encore à Saint-Etienne, je crois.
Il était à Nancy,
Voilà, et il y avait Rocheteau, bien entendu. Ils étaient tous là, ils ont écouté la chanson, ils trouvaient ça sympa, point à la ligne. Mais c'était surtout une rencontre formidable pour moi, parce que je voyais des joueurs fabuleux.
Des idoles.
Des idoles, oui. Moi, je suis un vrai fan, tu sais.
Le foot coule dans vos veines, Monty, allez les Verts, allez les Bleus. Mais je crois que vous auriez rêvé surtout à être joueur aussi sur le terrain. Vous avez joué, d'ailleurs.
Eh oui, malheureusement, on m'a cassé les deux chevilles. Un abruti m'est tombé dessus, il faisait 1m90 et 100 kg, il m'a cassé les deux chevilles au moment où j'allais être éventuellement engagé au Racing.
Et oui, puisque vous étiez un espoir à l'époque dans votre jeunesse.
Voilà, j'ai été meilleur buteur pendant 4 ans. Herzog m'a remis la médaille du meilleur buteur minime, cadet, junior, enfin. Ça a été une grande déception parce que j'aurais vraiment voulu jouer au football.
Mais vous l'avez bien rattrapé parce que vous avez eu une riche carrière, Monty, ensuite dans la musique. 40 millions de disques vendus, vous avez écrit pour beaucoup, beaucoup de monde. Dalida, on le disait, et bien d'autres. Par contre, voilà, cet hymne des Bleus, c'est un peu comme l'équipe sur le terrain. Au Mondial de 78, ça n'a pas vraiment marché.
Non, ça n'a pas marché parce que, il n'y avait pas les circonstances. Pourtant, on avait une très belle équipe.
Éliminé au premier tour en Argentine.
Ouais, c'est terrible. Moi, j'en revenais pas. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, tous les Français pensaient qu'on allait gagner la Coupe du Monde, c'est la vie, c'est le football.
C'est un exercice particulier en tout cas auquel se sont prêtés, vous le disiez tout à l'heure après vous, Johnny entre autres, et puis récemment Youssoupha avec ce texte rappé dont s'est emparé l'extrême droite pour déclencher une polémique, alors plus sur le musicien que sur le morceau lui-même d'ailleurs, mais est-ce que vous l'avez trouvé réussi vous, cet hymne 2021, écrit mon nom en bleu?
Oui, c'est bien, ça fonctionne bien. Les gens chantent, c'est bien. Je ne sais pas combien il en a vendu, mais enfin, c'est une bonne chanson.
Vous allez suivre cet Euro, évidemment, Monty. Jusqu'où est-ce que vous les voyez aller, ces Bleus de l'équipe de France?
Comme d'habitude, moi, j'y crois à fond. Je suis derrière Deschamps un maximum. Quand, juste avant la Coupe du Monde, la dernière, j'ai dit à Didier Deschamps, je lui ai dit au Stade de France, je lui ai pris les deux joues comme ça et je lui ai dit tu vas gagner la Coupe du Monde. Et à l'époque, c'était quand même bien avant la Coupe du Monde, il n'y avait pas beaucoup de gens qui lui disaient droit dans les yeux, mon pote, tu vas gagner la Coupe du Monde. Et j'en étais vraiment persuadé.
Et est-ce que vous l'êtes encore cette fois-ci ?
Ah oui, parce que, attends, Benzema, Griezmann, Mbappé, quand t'as trois avants comme ça, t'as une équipe fabuleuse quand même. Et puis, je te parle pas de toute l'équipe. Moi, j'y crois beaucoup. Moi, j'y crois énormément.
Eh ben, on y croit avec vous. Merci beaucoup, Monty, d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu ce matin. On dit évidemment, allez les Bleus avec vous. Très bon Euro et très bonne journée. À bientôt.
Merci, Théo. Au revoir.
Allez les Bleus, donc le... Oui, on va parler de tube pour Monty en 1978. On espère que ça réussira mieux à ces Bleus 2021.
Europe 1, Théo Manval.
L'essentiel à 6h20, Emmanuel Macron annonce une transformation de la force Barkhane, la présence militaire française au Sahel. Plus de 5000 soldats sont actuellement déployés sur place. Plusieurs bases vont fermer. Ils continueront à lutter contre le terrorisme, tout de même aux côtés des pays de la zone. 4 mois de prison ferme pour Damien Tarel, qui a giflé Emmanuel Macron en début de semaine dans la Drôme. La peine est assortie d'une obligation de travail ou d'une formation et d'une interdiction de port d'armes pendant 5 ans. Les pays du G7 réunis en sommet dans les Cornouailles s'engagent à distribuer 1 milliard de doses de vaccins aux pays pauvres. La moitié, soit 500 millions de doses, seront fournies par les seuls États-Unis. Et puis c'était une demande de la société exploitante du tunnel sous la Manche. Un comptoir de vente en duty-free va voir le jour côté français au terminal de Coquel dans le Pas-de-Calais. Votre 5-7 se poursuit en musique avec Simple Minds dans la partition d'Omblin Rush dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe 1.
6h24, la partition d'Omblin Rush, l'histoire cachée derrière un artiste, une chanson, un groupe. C'était le 11 juin 1988, un concert géant organisé au stade de Wembley à Londres pour célébrer les 70 ans de Nelson Mandela et demander sa libération. Parmi les plus grandes stars sur scène, le groupe Simple Minds interprète un titre spécialement écrit pour l'occasion.
Et ici, Simple Minds existe depuis 1977, Théo. À ce moment-là, eh bien, cela fait à peine 3 ans que les Écossais connaissent un succès international formé à Glasgow. Au beau milieu de la vague punk, le chanteur Jim Kerr et sa bande, influencés par David Bowie, vont rapidement se détourner de la rage des Clash au profit des synthés d'une musique new wave plutôt mélodieuse.
Enfin la reconnaissance pour les Simple Minds en 85, mais avec un morceau qu'ils n'ont pas écrit.
Et en plus, il a fallu les convaincre pour l'enregistrer. Don't You Forget About Me est indissociable du film de John Hughes, The Breakfast Club, film culte devenu l'emblème d'une génération, la vitrine de la jeunesse américaine des années 80. Jackpot et consécration, les Simple Minds sont numéro 1 aux États-Unis. Pas de temps à perdre, il faut profiter de cet enthousiasme général, capitaliser sur ce succès et sortir un nouvel album.
Tous les membres de Simple Minds se retrouvent à Londres pour boucler en quelques mois à peine ce 8e disque.
Il est baptisé Once Upon a Time et malgré une nouvelle étiquette qui les qualifie de U2 écossais, le groupe voit sa notoriété augmenter mieux. Les Simple Minds voient la taille des salles de concert grossir à vue d'œil. La tournée mondiale se transforme en tournée des stades.
Et soudain, le rock de Simple Minds, Omblin, va se montrer plus engagé.
En 1985, il participe au plus grand concert caritatif de l'histoire, le Live Aid, au profit de la lutte contre la faim en Afrique. Deux shows gigantesques se déroulent en simultané à Londres et à Philadelphie. 3 ans plus tard, les musiciens de Simple Minds acceptent cette fois d'apporter leur soutien aux héros de la lutte contre le régime ségrégationniste sud-africain. It was 25 years to take that man away.
Ce 11 juin 1988, 72 000 personnes assistent au concert du siècle.
Ce Free Mandela concert est retransmis à l'échelle mondiale en France. Antenne 2 choisit quelques séquences en direct. Europe 1 diffuse le spectacle dans son intégralité. Sur l'affiche, des stars en pagaille, Sting, George Michael, Dire Straits. Quant aux Simple Minds, ils imaginent le jour où le prisonnier 46664 sera enfin libéré, ce jour qu'ils baptisent Mandela Day. Years ago this very day, held behind four walls all through night and day, still the children know the story of that man, and we know what's going on right through your land. Mandela Day de Simple Minds.
Titre spécialement écrit pour le concert des 70 ans de Nelson Mandela à Wembley en Angleterre il y a 33 ans et qui se retrouvera ensuite sur l'album Street Fighting Years.
L'histoire cachée derrière une chanson, un artiste, un groupe, la partition d'Amblin Roche tous les matins juste avant 6h30. Merci Amblin, à demain.
Merci beaucoup, à demain.
6h29, la météo, Laurent Cabrol.
Avec une première info, les températures du matin entre 15 et 20 degrés, 19 à Lyon en ce moment, 18 à Paris, 16 à Strasbourg et 20 degrés du côté de Toulouse, Marseille et Nice. Température de l'après-midi, ça ne change pas. C'est exactement le même temps qu'hier sur le côté, au côté température, vous aurez exactement les mêmes températures. Hein. 28 à Paris par exemple, 31 à Lyon ou 34 à Nîmes. Les brouillards, ils sont un petit peu plus nombreux. Saint-Dizier, Dinard, Le Conquet, le Havre, Dieppe, Abbeville, Le Touquet, Saint-Quentin, autant de villes où les brouillards sont situés autour de ces villes ou sur les villes et dans l'ensemble, ils vont se disperser dans la matinée. La Manche, donc, pas de changement, les brouillards se dissipent. Maintenant, les orages, ils changent de côté, si je puis dire. Ils étaient dans le sud-est, ils passent dans le sud-ouest. Des orages sur le massif pyrénéen dans l'après-midi, sur les plaines du Midi-Pyrénées, sur l'Aquitaine, le Languedoc, le Roussillon, la vallée de la Garonne. Ils seront parfois violents, je dis cela comme ça de manière un peu banale, mais soyez vigilants, franchement, quand ils éclatent, ils sont terribles, terribles parfois. Hein. Et puis, des orages dans les terres, sur les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Voilà pour cette journée d'aujourd'hui, et je vous promets pour tout à l'heure, les 4-5 jours qui viennent, un changement de temps quand même mercredi.
Merci Laurent, on vous retrouve dans une demi-heure.
Europe Matin, le 5-7, Théo Manval.
Vendredi 11 juin, bon réveil, un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Il est 6h30.
Les Américains, dans les prochaines heures, vont arriver avec une proposition écrite et on va regarder ce qu'il y a de plus efficace et de plus ambitieux.
Qu'y a-t-il concrètement derrière les 500 millions de doses de vaccins promises par les États-Unis aux pays pauvres ? Emmanuel Macron compte bien rappeler que l'Europe aussi peut se montrer généreuse. Elle a entendu les derniers mots de sa voisine, Julie Dwib, qui venait d'être touchée par les balles de son ex-conjoint. Témoignage crucial que nous entendrons. Et puis la réouverture d'une des salles de concert les plus prisées de France, l'Olympia, hier soir, et déjà la difficulté de faire respecter les consignes sanitaires et de rester assis.
Juste après ce journal, état des lieux des forces en présence pour les Bleus alors que débute l'Euro aujourd'hui. Un statut de favori mais un groupe extrêmement relevé. Deux matchs en terrain adverse. Le regard toujours acéré d'Alain Giresse, ancien international, champion d'Europe 84. C'est dans 10 minutes. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le sommet des pays du G7 au Royaume-Uni, on y discutera beaucoup des vaccins contre le Covid. Joe Biden arrive avec une promesse, 500 millions de doses pour les pays pauvres. Le président américain qui avait aussi demandé la levée des brevets sur les vaccins. Mais de son côté, l'Élysée cherche à rappeler que l'Europe était en pointe sur ces deux aspects bien avant les États-Unis. Jean-Rémy Baudot.
Oui, car Emmanuel Macron, hier soir, lors d'une conférence de presse à l'Élysée, a émis quelques doutes sur les promesses des États-Unis.
J'attends d'avoir la proposition précise américaine. Elle n'est pas mieux-disante, elle est moins précise.
Le président français ne croit pas que Washington imposera une levée définitive des brevets sur les vaccins Covid, alors même que les États-Unis ont attendu d'avoir vacciné une grande partie de leur population avant de partager leurs doses. Autre point important sur lequel la France attend des réponses au G7, les blocages américains sur l'exportation des composants nécessaires à la fabrication de vaccins.
Mais j'espère que ce sera une avancée du G7, parce que là, c'est un blocage américain. Ce qui, pendant des mois, a empêché le Serum Institute of India de produire pour lui-même et pour l'Afrique, ce sont les restrictions à l'export mises par plusieurs économies, dont l'économie américaine.
Emmanuel Macron l'a dit plusieurs fois, il se réjouit que les États-Unis reviennent dans les instances multilatérales comme le G7, avec l'envie de discuter. Mais pour être certain que Joe Biden prend bien le contre-pied de Donald Trump, la France demande des clarifications sur ses promesses.
Les Américains, dans les prochaines heures, vont arriver avec une proposition écrite et on va regarder ce qu'il y a de plus efficace et de plus ambitieux.
Comme souvent dans ces sommets internationaux, les discussions vont être longues et vives pour arriver à un accord signé par tous les participants.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Par ailleurs, deux cas de Covid sont signalés à bord d'un des tout premiers bateaux de croisière à voguer de nouveau en Amérique du Nord, le Celebrity Millennium, et ce alors que l'équipage et les passagers sont vaccinés, selon la compagnie de croisière.
6h33, l'actualité judiciaire avec ce procès aux assises de Bastia, le meurtre de Julie Douib en mars 2019. Elle avait déposé plainte pour menaces de mort et violence de la part de son ex-conjoint, mais en vain.
Un témoignage clé dès hier, celui de Rosemarie Santini, la voisine de Julie Douib, qui a assisté à ses derniers instants.
Elle gémissait avec ses yeux, avec ses grands yeux. Et elle m'a dit, il m'a tué. Elle m'avait répété plusieurs fois que Bruno Garcia lui avait dit qu'il devait la tuer. Et moi, je ne croyais pas. Je lui disais toujours, mais non, il ne va pas tuer la mère de ses enfants. Quand j'ai entendu les coups de feu, je ne pensais pas qu'il avait tiré dessus. Moi, je pensais qu'il avait tiré en l'air pour lui faire peur. Elle est venue s'installer fin octobre 2018. Tout doucement, elle a commencé à me raconter des violences. Elle la prenait par les cheveux, elle la mettait par terre. Elle lui arrachait le téléphone portable. Tous les mots d'oiseau. Et je disais toujours à Julie, mais pourquoi vous n'êtes pas partie sur le continent, puisqu'ici vous n'avez pas de famille? Oui, mais mes enfants, comment vous voulez que je fasse? Je ne pouvais pas partir sans mes enfants.
Rosemarie Santini au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Corse, Marion Dubreuil.
Ce constat assez décourageant à présent à la lecture d'une enquête IFOP pour le site Météo Job.
La discrimination à l'embauche a quasiment doublé en 20 ans et ce, malgré la multiplication des actions de sensibilisation, Olivier Samin, ces dernières années.
En 2001, 12% des salariés interrogés par l'IFOP disaient avoir été victimes d'une discrimination dans le cadre de leur recherche d'un emploi. Cette année, c'est presque deux fois plus, 21%. Le fait d'être une femme plutôt qu'un homme, d'appartenir à un milieu social défavorisé, tout ça, visiblement, ça joue. Mais ce qui revient le plus souvent dans les réponses, c'est le fait d'avoir une nationalité étrangère, de ne pas avoir la peau blanche ou d'appartenir à une minorité religieuse. C'est notamment au moment de l'entretien d'embauche que la discrimination est perçue, avec des remarques désobligeantes liées aux origines ou aux croyances religieuses quand ce ne sont pas des moqueries sur le prénom ou le nom de famille. Le sexisme est aussi souvent à l'œuvre. 19% des femmes disent avoir subi des propos déplacés lors de l'entretien. Il y a 20 ans, c'était presque trois fois moins. Enfin, la vie privée est fréquemment invoquée. Une femme sur quatre s'est vue demander si elle comptait avoir prochainement un enfant ou comment elle assurait la garde de ses enfants. Question beaucoup moins posée il y a 20 ans.
Olivier Samin, encore une affaire de cyberattaque. Cette fois, c'est l'éditeur de jeux vidéo EA Games qui est touché. Le code source de certains de ses titres, notamment le célébrissime jeu de football FIFA. Le code informatique donc a été dérobé.
Enfin, quel artiste François Geffrier n'a pas rêvé un jour de voir son nom scintiller en lettres rouges majuscules sur la façade de l'Olympia à Paris.
La mythique salle de spectacle rouvrait hier soir avec les In Rock Festival, jauge réduite mais pleine ambiance. Angèle Châtelier.
C'est incroyable, c'est de se retrouver dans une salle de concert, ça faisait longtemps quoi.
Impossible de rester assis comme c'est censé être la règle face à la passion d'un concert. Les masques ne tombaient pas, mais tous les spectateurs étaient debout. L'Olympia a retrouvé sa fosse et sa fougue, même s'il y avait trois fois moins de spectateurs que d'habitude. Carole Boinet, rédactrice en chef des In Rock qui organisait l'événement, ne contenait pas son enthousiasme.
Tout le monde est dans une espèce de ferveur incroyable, ça colle des frissons.
Ce sentiment de liberté est aussi permis parce que les 1200 spectateurs ont dû montrer un test négatif ou un certificat de vaccination. À l'entrée, une dizaine de vigiles avaient pour mission de vérifier leur validité.
Et ensuite, vous allez en bas à gauche.
Le groupe La Femme, tête d'affiche de la soirée, en plaisantait même pendant le concert.
En temps de Covid, il faut faire très attention. Donc c'est super qu'on ait au moins un public.
À la sortie, face au néon rouge scintillant, enfin rallumé sur la devanture de l'Olympia, quelques spectateurs transpirant s'attardaient.
On dansait de ouf, c'est très très chaud là.
Comme le vélo, semble-t-il, danser face à un groupe, être ébloui par des spots de lumière scintillant, eh bien ça ne s'oublie pas.
Et ben voilà, on se remet à danser de ouf et ça vous fait plaisir, Théo Manval.
Merci beaucoup François, j'ai frié, c'était le journal de ouf, il est 6h37.
Europe 1.
Coup d'envoi de l'Euro de football donc aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Giresse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Qui mieux qu'un premier vainqueur du championnat d'Europe avec les Bleus en 84 pour faire un point sur l'état de nos forces, sur nos adversaires, sur le format assez inédit aussi de la compétition cette année. Votre analyse, Alain Giresse, dans quelques secondes sur Europe 1.
Théo Manval sur Europe 1.
L'invité de ce 5-7 fit donc partie des premiers bleus vainqueurs de l'Euro en 1984, Alain Giresse. L'équipe de France assume un statut de favori trois ans après son sacre mondial, avec un effectif que toute l'Europe nous envie. Un euro réussi, c'est la gagne, disait hier Antoine Griezmann. C'est un danger d'arriver avec une telle pancarte, entre guillemets, sur le front.
Danger ou pas, de toute façon, c'est le cas. On peut pas l'empêcher. On est champion du monde. On a effectivement un potentiel assez performant, notamment sur le secteur offensif. Voilà, maintenant, ça sent des prévisionnels extérieurs à la partie football technique. Et je pense que tout le monde sera concentré, notamment le staff, les joueurs, pour justement mettre tous les ingrédients et d'avoir tous les arguments pour pouvoir justement aller au titre. Il ne faut pas se bercer, il ne faut pas tomber dans le panneau de dire c'est bon, l'euro est déjà gagné.
D'autant plus que ça s'annonce relevé d'entrée, les Bleus dans le groupe de la mort, entre guillemets, avec les champions en titre, le Portugal, l'Allemagne qui est toujours solide, la Hongrie qu'on jouera à Budapest devant 60 000 supporters hongrois. Il faudra être performant tout de suite.
Voilà, c'est d'ailleurs assez rare, je crois que dans toute l'histoire des équipes de France et des grandes compétitions, d'avoir un groupe aussi relevé, je pense que c'est pas arrivé souvent. Donc effectivement, là, l'euro, c'est pas dans la deuxième partie que ça va compter, c'est dès les premiers matchs où effectivement il faudra être très performant.
Et on sait justement, Alain Giresse, que démarrer pied au plancher, c'est pas forcément la grande force de ces Bleus. Au dernier mondial, les premiers matchs avaient été très poussifs.
Ils avaient été effectivement très poussifs, mais on sait que la Coupe du Monde est une compétition plus longue qu'un euro. Là, je pense que tout le monde est conscient qu'un euro, eh bien, il faut déjà être très près dès le début de la compétition, et d'autant plus avec ce groupe. Donc je pense que tout a été fait en fonction justement de ces données.
Ça va être un euro très particulier, 11 villes hôtes dans 11 pays différents, avec des jauges de public qui vont varier selon les stades. Donc tous les matchs et toutes les équipes ne seront pas devant le même public qui pousse. Et puis je le disais, la France va se retrouver deux fois en terrain hostile, on va dire, contre l'Allemagne à Munich d'entrée dès le premier match et contre la Hongrie à Budapest avec 67 000 spectateurs hongrois dans le stade. Ça paraît pas vraiment équitable, Alain Giresse, ce système cette année.
Ben effectivement, oui, c'était un euro qui avait une particularité qui pourrait être tout à fait spéciale, mais on se retrouve confronté à ces situations. On va jouer deux matchs à l'extérieur et contre les pays hôtes, et ce qui va pas, ce qui sera pas facile. Donc on se rend compte que cet euro, en tout cas pour l'équipe de France, déjà dans un groupe relevé et dans des conditions très très compliquées. Donc c'est évident qu'il faudra vraiment être au maximum sur le plan technique et évidemment sur le plan mental.
Pour être encore plus fort. Comment est-ce que vous le sentez justement, ce groupe de 26 joueurs? On a vu très détendu, très souriant pendant la préparation, mais qui n'est pas à l'abri de tension non plus. On a entendu Olivier Giroud, par exemple, après le match contre la Bulgarie mardi, regretter entre les lignes que Kylian Mbappé ne l'ait pas servi plus souvent.
Ça, c'est la traduction qu'on en fait. Je pense qu'effectivement, d'abord, le groupe vit bien. C'est ce que l'on ressent quand on les voit à travers les matchs, mais également dans tout ce qui est la partie de préparation. Mais bon, en même temps, sur tout un euro ou une Coupe du Monde, vous avez toujours des petites situations un petit peu délicates. J'ai connu ça. Il ne faut pas s'imaginer que tout est limpide et qu'il n'y a aucun problème. Mais c'est des problèmes qui ne génèrent pas tout d'un coup l'éclatement du groupe. Ça, c'est rien, c'est peanuts. Ça ne représente pas grand-chose par rapport à ce que le collectif et l'expression collective qu'a ce groupe.
C'était quoi, tiens, l'ambiance dans votre groupe à l'époque, en 84, avec les Platini, les Bats, les Tigana?
C'était une ambiance de joueurs très consciencieux professionnellement, conscient de l'ambition que l'on avait et de l'objectif qu'on voulait atteindre et de la mobilisation qu'on devait avoir. Donc voilà, ça s'est parfaitement bien passé. Il y a toujours des moments qui sont plus ou moins un petit peu difficiles en fonction des circonstances de la compétition, mais il y avait une telle volonté de réussir cet euro que ça annexe tous les problèmes ou ça annule tous les problèmes éventuels qui peuvent être générés pour des raisons qui ne sont pas si importantes que ça.
Puisqu'il y a 26 joueurs cette année avec le Covid, il y en aura 3 en tribune à chaque match. Ça, c'est une nouveauté aussi. Est-ce que ça peut peser sur les états d'esprit et être quelque chose qui s'apparente à un défi ?
Mais fatalement, pour les 3 joueurs qui seront dans les tribunes, ça sera pas évident. Parce que là, vous n'êtes même pas en tenue, vous arrivez au stade, vous avez les mains aux poches, sans même pas le sac et vos chaussures. Donc ça, c'est le côté délicat. Mais bon, c'est pas ça qui va entraver l'avancée et l'envie de tous les autres joueurs de réussir quelque chose.
D'un dernier mot, Alain Giresse, l'assistance vidéo, la VAR, sera utilisée pour la première fois à l'Euro. Après ce qu'on en a vu en championnat de France cette année, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ?
Ça peut l'être ou ça peut pas l'être. C'est comme dans le championnat. Non, mais c'est vrai. Quand sur le championnat, il y a eu effectivement Oui, c'est ça. Il y a eu une bonne chose effectivement. Ah, mais tant mieux qu'on ait la VAR. Et puis on a vu aussi, oui, mais la VAR, au final, elle a pas réussi à démêler la situation de l'action qu'il y avait, quoi. Donc, je pense qu'on va se retrouver dans le même cas.
Il y a parfois des incompréhensions sur la façon dont elle est utilisée ou pas. Finalement, au lieu de résoudre des problèmes, ça crée de nouvelles possibilités de contestation.
Oui, parce qu'on était parti que la VAR allait régler tous les problèmes d'arbitrage. Et on s'aperçoit toujours qu'on est toujours à la merci d'interprétations humaines. Et alors qu'on voulait se appuyer sur la technologie, mais la technologie a ses limites, et l'humain rentrant dans la prise de décision, on s'aperçoit qu'effectivement, les interprétations ne sont pas toujours les mêmes.
On suivra cet Euro avec la VAR, en tout cas très largement sur Europe 1, les matchs des Bleus en intégralité, et tous les soirs, 20h, 23h30, Europe 1 Sport, autour de Lionel Rosso et de nos consultants. Merci beaucoup Alain Giresse d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, et allez les Bleus.
Allez les Bleus, merci, au revoir.
Europe 1.
6h45, l'innovation du jour arrive dans votre 5-7 avec Anissé Mbida. A tout de suite.
Europe 1, Théo Manval.
L'essentiel à bientôt 7h10. L'homme qui a giflé Emmanuel Macron en début de semaine dans la Drôme a passé sa première nuit en prison. Damien Tarel, condamné à 4 mois de prison ferme avec mandat de dépôt hier en comparution immédiate. 1 milliard de doses de vaccins promises à une centaine de pays pauvres, annonce des dirigeants du G7 qui se réunissent en sommet d'aujourd'hui à dimanche au Royaume-Uni. Il s'agira de partager certaines doses et d'en financer d'autres. En Algérie, des arrestations hier à 2 jours des élections législatives boudées par une grande partie de l'opposition. Karim Tabou, figure du mouvement de contestation du Hirak, ainsi que le directeur d'une station de radio, ont été interpellés. Et puis le tennis, les demi-finales messieurs de Roland-Garros à suivre cet après-midi. Zverev Tsitsipas à 14h50 avant la grande affiche Djokovic-Nadal, prévue aux alentours de 17h30. L'innovation du jour à présent. Bonjour Anissé Mbida.
Bonjour Théo.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un antivol nouvelle génération. On connaissait l'alarme qui hurle dès qu'on essaye de forcer une voiture. Désormais, Anissé, on sera prévenu directement sur notre téléphone et on pourra bloquer le véhicule ou alors carrément interpeller le voleur à distance.
Ben oui, parce qu'on pourra lui parler directement. Laissez ma voiture tranquille ou j'appelle la police. Le message sera relayé par les haut-parleurs de la voiture. On pourra même voir ce qu'il est en train de faire grâce aux caméras panoramiques qui est aujourd'hui sur les rétroviseurs. Donc oui, je pense que ça va surprendre. C'est Tesla qui a été le premier à proposer ce type de fonction sur ses voitures. Et aujourd'hui, il est rejoint par la plupart des constructeurs, Ford, Volkswagen, BMW, Mercedes. Et ça arrive tout doucement chez nos constructeurs français.
Est-ce que ce sera réservé uniquement aux nouvelles voitures ?
Non, pas forcément, parce que chez Ford et BMW, par exemple, il suffit juste d'une mise à jour de l'ordinateur de bord ou de l'application. Il faut savoir que depuis 2 ans, toutes les nouvelles voitures sont connectées. Elles ont une carte SIM pour pouvoir contacter automatiquement les services d'urgence en cas d'accident. C'est une obligation européenne. La plupart sont aussi équipées de mouchards qui se déclenchent quand une vitre est cassée ou quand la voiture est déplacée, si on la met sur un camion par exemple. Donc c'était pas très difficile d'envoyer une alerte sur son téléphone portable.
Et donc là, ça peut fonctionner aussi dans l'autre sens.
Oui, et c'est comme ça qu'on peut complètement immobiliser la voiture à distance. Mais c'est pas réservé au vol. On commence aussi à s'en servir comme une sorte de contrôle parental, puisqu'on peut limiter l'accélération, empêcher de dépasser une certaine vitesse ou même fixer un périmètre que la voiture ne doit pas dépasser. Donc c'est plutôt pratique quand on prête sa voiture à un enfant ou à un copain en qui on n'a pas trop confiance.
Ça sent le vécu. Merci beaucoup Anissé Mbida, votre innovation du jour. À demain. 6h51, ils sont nos yeux et nos oreilles sur tous les continents. Les correspondants d'Europe 1 nous attendent pour une revue de presse internationale spéciale Euro. Ce matin, on commence en Italie avec vous, Blandine Hugonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Rome, là où le tournoi démarre ce soir. Qu'en dit la presse italienne ?
Eh bien ici, on met en avant la fierté de donner le coup d'envoi de cet Euro tant attendu. Avec un an de retard, c'est parti, écrit le Corriere della Sera. Et pour le premier match, c'est l'Italie qui ouvre le bal face à la Turquie. À Rome, tout est prêt, assure la Gazzetta dello Sport. Le stade sera rempli à 25% de sa capacité par 14 000 supporters. Symbole d'une reprise, l'Italie retrouve enfin ses tifosi, se réjouit la Repubblica. Et c'est déjà une victoire, écrit le Messaggero. C'est un bon coup de pied donné au Covid après une année qu'on préférerait oublier ici. La presse italienne tient aussi à encourager évidemment ses joueurs, d'autant que comme le rappelle la Stampa, c'est la première fois que la Squadra Azzurra revient en compétition internationale depuis son élimination pour la dernière Coupe du Monde. Le capitaine italien l'a dit aux médias, favorite de son groupe, l'Italie compte prendre sa revanche. Alors comme un chant lancé en tribune, la Gazzetta titre « Toute la nation est derrière vous, Italiens, faites-nous rêver ».
Blandine Hugonnet, correspondante Europe 1 à Rome, direction l'Espagne maintenant, où nous attend Henri de Laguérie. Bonjour Henri.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous ?
Eh bien, c'est la préparation qui tourne au fiasco pour l'équipe d'Espagne. Depuis lundi, les joueurs de Luis Enrique sont tous à l'isolement. Ils s'entraînent par petits groupes, raconte El Mundo, car deux d'entre eux, dont le capitaine Sergio Busquets, ont été testés positifs au Covid. 6 réservistes et 11 joueurs de la sélection espoir ont été rappelés en urgence pour faire face à de nouveaux imprévus. 40 footballeurs sont à disposition du sélectionneur avant le premier match lundi face à la Suède, du jamais vu. Après plusieurs jours de tergiversation, le gouvernement a finalement accepté hier soir la demande de la fédération. Les joueurs seront vaccinés en urgence ce vendredi. C'est une exception, un passe-droit, dénoncent certains, alors que la vaccination n'est pas encore ouverte aux moins de 40 ans ici. À tout cela s'ajoute enfin l'absence très polémique de joueurs du Real Madrid au sein de cette sélection. Une première dans l'histoire de la Roja.
Et un sacrilège en Espagne. Henri de Laguérie, correspondant Europe 1, on termine ce tour d'Europe en Allemagne avec vous, Hélène Kohl. Bonjour.
Bonjour.
De quoi parle la presse à Berlin ?
Eh bien, des Bleus qui seront les premiers adversaires de l'Allemagne mardi. Pour le focus, aucun doute, la France est le grand favori du tournoi. Voilà une équipe qui transforme toutes les autres en Calimero, écrit le magazine, car oui, c'est trop injuste. Didier Deschamps a un collectif aguerri qui lui garantit le top niveau à tous les postes de jeu. Le Bild rappelle qu'en plus, 4 joueurs français évoluent au Bayern de Munich. Mardi, ils seront donc à domicile. La fédération française a même choisi d'installer l'équipe directement dans l'hôtel du Bayern. En plus, face à la France, les Allemands ne pourront pas compter sur le milieu de terrain Léon Goretzka, encore forfait, on l'a appris hier. Le journal sportif Kicker titre « Le choc avec la France arrive trop tôt pour sa cuisse. Cet euro commence par un saut dans l'inconnu », résume le Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Merci Hélène Kohl, Europe 1 en Allemagne, votre fenêtre sur l'Europe du foot ce matin avec nos correspondants juste avant 7h.
Europe 1.
La météo et le journal arrivent dans quelques secondes et Sébastien Krebs pour le 7-9. A tout de suite. 6h57, bon réveil. Merci de nous avoir suivis depuis tôt ce matin. Sébastien Krebs vous informe jusqu'à 9h. Bonjour Sébastien.
Bonjour Théo Manval, merci d'avoir accompagné les auditeurs d'Europe 1 tout au long de la semaine dans le 5-7. Bon week-end à vous et bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Europe 1 si vous nous rejoignez. C'est vendredi et la fête peut commencer, la grande fête du foot avec l'Euro qui démarre ce soir, mais aussi le retour de la culture. Et écoutez, des concerts.
C'est incroyable, c'est de se retrouver dans une salle de concert, ça faisait longtemps quoi.
Un concert en soirée devant du public, c'est une salle mythique qui a repris vie hier, l'Olympia, avec des spectateurs masqués et qui ont eu bien du mal à rester assis, et on peut le comprendre. Et ce week-end, c'est la danse qui envahit le Grand Palais éphémère, cette structure provisoire qui a été construite sous la Tour Eiffel. Événement gratuit conçu par le chorégraphe et danseur Boris Charmatz, la star de la danse contemporaine, qui est mon invité ce matin dans le tête-à-tête. Danser quand même, malgré les masques, malgré la distanciation. Voilà son message. Il nous dira comment il a dû se réinventer et revoir sa vision de la danse. Rendez-vous à 7h40. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Sébastien. Et chers amis, pique-nique, allez, piscine, balade en forêt, tout. Vous pouvez tout lancer, tout programmer, puisque le temps sera très ensoleillé à la fois aujourd'hui, demain, après-demain, même jusqu'à mardi, disons le mardi inclus. Donc vous avez des journées entières pour profiter du soleil, et vous allez certainement en profiter. Alors les brouillards, on revient à cette journée d'aujourd'hui. Bon, c'est un peu comme hier, des brouillards près de la Manche, la mer du Nord, ça c'est, on y est habitué, ils vont se disperser assez rapidement d'ailleurs. Les orages, on y est habitué aussi malheureusement, et parfois ils sont extrêmement violents. On prononce la phrase ici devant vous, et je le dis tout le temps, soyez vigilants, mais c'est pas une phrase banale, hein. Parfois ils sont terribles. Donc des orages font se manifester cette journée sur le massif pyrénéen, puis sur les plaines du Midi-Pyrénées, sur l'Aquitaine, le Languedoc, le Roussillon et la vallée de la Garonne. Ça veut dire qu'ils ont changé de côté, ils étaient côté sud-est, ils sont maintenant côté sud-ouest. Un temps orageux probablement sur la Dordogne et sur l'Aveyron. Et puis si vous aimez, encore des orages sur les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, je ne l'oublie pas, hein, en montagne. Maintenant, si vous aimez le soleil, bien partout ailleurs, le ciel sera non pas limpide, mais en tout cas souvent nuageux, souvent ensoleillé, avec quelques petits passages nuageux, des nuages de chaleur. Les températures maximales, 23 degrés à Caen, 25 à Valenciennes, vous nous écoutez sur 92.7, 26 à Nice et Rouen, 27 à Rennes, à Paris, 28, 29 à Nantes, 30 à Marseille et Toulouse, 31 à Lyon, 33 à Orange et 34 degrés à Nîmes.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Vendredi 11 juin, bon réveil et merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin. On écoute Le Monde changer.